L'art du pitch, chapitre 1, démarrer par un pourquoi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le Président, Madame la Déléguée Générale. Notre activité cette année a été marquée par un ensemble de réalisations, notamment sur le plan structurel et commercial. Les perspectives de croissance.
Qui n'a jamais fait une présentation barbante ? Philippe parle devant 400 personnes pour faire la présentation la plus importante de sa vie. Nous sommes jeudi, il est 14h, ce midi c'était purée au restaurant d'entreprise, et ça se ressent un peu dans la prise de parole de Philippe. Le style est mou, rien n'accroche vraiment, et la salle s'endort paisiblement dans un calme religieux. Un camouflet pour Philippe qui prépare sa présentation depuis 2 semaines. Pas de bol ? Je pense pas. Manque de méthode ? Certainement. Vous l'avez compris, dans cet audio learning, on va vous donner les clés pour faire un pitch qui a de l'impact. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Van Rennes, fondateur de RH Performance et d'Up2You. Bonjour Hervé.
Bonjour César.
Alors Hervé, toi, tu as fait des centaines de pitchs pour présenter ton activité. Qu'est-ce qui t'a fait dire qu'à un moment, il y avait un problème dans les présentations ?
Je dois reconnaître que depuis de nombreuses années, quand on intervient sur l'art du pitch, mon constat, c'est que de trop nombreuses personnes, effectivement, peuvent devenir chiantes. Alors pourquoi je dis le mot chiant ? C'est vont dérouler des informations les unes après les autres, sans réellement de cohérence, et surtout, il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de relief. Un encéphalogramme plat. C'est terrible.
Toi, tu t'en es rendu compte aussi pour les propres présentations que tu faisais ou...
Oui. Pour la faire courte, il y a 8 ans, j'assiste à une formation à destination des dirigeants sur des techniques de com. Et là, j'ai une révélation pendant cette formation. Je me dis, mon Dieu, ça fait des années qu'on présente notre entreprise en se concentrant sur le process, l'expertise. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de relief. Et c'est un déroulé dans lequel on n'impacte pas notre interlocuteur.
C'est un peu un syndrome exposé, quoi.
Complètement. Je suis arrivé lundi au bureau, je fais, les gars, ça fait des années qu'on est chiant, il faut que ça change.
Bon alors justement, si on entre dans le cœur du sujet, donc on va présenter ici 10 clés pour savoir comment animer un bon pitch. Si on prend la première, comment on commence tout simplement un pitch ? Par quoi je commence ?
Alors, il y a une astuce qui est juste simple, une astuce qui se base sur Simon Sinek, qui a fait parler de lui en 2009 sur un TEDx à Londres, qui a amené cette notion de « start with why ». Start with why, vous l'aurez compris, c'est démarrer par un pourquoi. Et oui, démarrer par un pourquoi, ça libère le comment, ça libère le pourquoi. Donc, ça sert à ça. Donc, oser démarrer par un ou plusieurs pourquoi. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Pourquoi je vous présente telle offre ? Pourquoi on a intérêt à travailler ensemble ? Etc, etc.
L'idée, c'est d'expliquer à son audience, clairement, le pourquoi elle a intérêt à nous écouter, c'est bien ça ?
Tu as tout compris, César. Pourquoi ? Voilà, tu as utilisé pourquoi. Et c'est extrêmement important parce que faut jamais oublier, c'est que les clients internes ou externes adorent savoir pourquoi vous êtes là, pourquoi vous travaillez, pourquoi vous êtes telle ou telle mission.
Ouais.
Donc, faut le dire.
Ouais, complètement.
Et libérer tout le reste.
On va parler de pitch. Mais dans pitch, ça peut être aussi bien une prise de parole devant beaucoup de monde, devant une assemblée, comme une présentation client.
Tout à fait.
Toi, il y a des pourquoi que tu utilises souvent qui sont un peu des astuces.
Alors, j'ai envie de dire, chaque pitch a son travail, a sa personnalisation. Mais je sais que quand on va en rendez-vous, on aime bien dire à notre client, l'occasion de se voir, ici présente, c'est pour nous l'occasion de dire pourquoi on est là. Pourquoi notre offre peut sans doute correspondre à vos attentes et pourquoi on a réellement intérêt à travailler ensemble. Quand tu dis ça à un client, interne ou externe, encore plus externe, il te regarde, il dit avec plaisir.
Il tend l'oreille.
J'ai envie de savoir. Voilà. Et je reviens sur cette notion, c'est parce que je t'ai exprimé à toi César pourquoi je suis là, que derrière, tu seras beaucoup plus audible à écouter mes process et enfin mon expertise.
Complètement. Dans le cadre de ce podcast, on est là pour vous aider à mieux pitcher. Tiens, quand on fait un faux départ, parce que c'est vrai que le départ, c'est important dans un pitch et qu'on se retrouve un peu le bec dans l'eau.
Oui.
Comment on peut faire pour rebondir et ressaisir l'attention de l'audience ?
Alors déjà, une astuce fabuleuse, c'est faut pas le dire. Si tu te plantes, tu fais comme si de rien. Voilà. Alors déjà, pour pas se planter, on s'entraîne, on se prépare et on a un anti-sèche. L'anti-sèche, c'est un carton, pas une feuille de papier, parce que la feuille de papier, on voit si la personne tremble. Donc le carton, quelque chose de solide, un téléphone. Vous pouvez mettre vos notes sur le téléphone, n'oubliez pas de le mettre en mode avion, bien évidemment. Donc j'ai mon anti-sèche qui fait que je regarde mon public, je suis présent, je prends le temps, je me fais plaisir. Et de temps en temps, je baisse les yeux pour voir ce qu'il y a à dire à la suite.
Anticiper.
Je n'écris pas tout, c'est juste des mots-clés pour garder mon naturel. Donc si je me plante, ça veut dire que je n'ai pas regardé mes notes. Si je me plante, je ne le dis pas. Je ne fais pas comme certains. Excusez-moi, je me suis trompé. Les gens ne s'excusent pas.
Ouais.
Donc si je me plante, je fais comme si de rien. Je continue. Ça ne se voit pas. Et comme ça, les gens ne se sont pas rendus compte que je me suis planté.
C'est comme en musique. C'est comme en musique quand on fait un concert et que si on a fait une faute note, il ne faut pas la relever.
Exactement. C'est quoi l'intérêt de souligner ?
Voilà, complètement. J'ai une question pour toi. Quand on parle de pitch devant une assemblée,
oui.
On a parfois l'impression d'être trop long ou d'être trop court. Selon toi, ce serait quoi si tu as une borne, une sorte de fourchette du bon pitch devant une assemblée pour avoir le temps de dire des choses sans être trop long ?
Avant tout, il y a des techniques de pitch. Des techniques de pitch, elles ont toutes un seul intérêt, un seul objectif, c'est créer de l'impact. Créer l'impact auprès de ton public. Donc dans l'absolu, tu peux utiliser des techniques de pitch pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le pitch a pour objectif de créer de l'impact. Donc, on est plutôt sur des formats courts. On va passer de l'elevator pitch, qui est...
Une minute.
Je suis dans un ascenseur. En une minute, comment je peux convaincre ? Je vais à un pince-fesse, un cocktail. Comment je peux taper sur l'épaule de quelqu'un d'important et en 45 minutes, lui donner envie ? Donc ça, c'est les pitchs peut-être les plus complexes à conduire.
45 secondes.
45 secondes. J'ai 10 minutes. Ouais. Tu as raison. Sinon, c'est long. Sinon, on est chiant. Donc, 45 secondes pour convaincre. Et puis après, tu as des pitchs, des prises de parole, 3, 4, 5 minutes. Donc, on va plutôt travailler à être capable de travailler à faire des pitchs impactants en 4-5 minutes. Comme on dit, simple et difficile. Si je suis capable de faire un beau pitch en 3-4-5 minutes, je saurais faire quelque chose d'un tout petit peu plus long en 10 minutes.
On reparlera de l'importance d'être synthétique dans quelques instants, mais je pense qu'on est en plein dedans. Il y a quelque chose qui est intéressant, et c'est souvent le deuxième point que toi t'évoques quand tu parles des 10 clés du pitch, c'est l'importance des questions pour créer l'interaction.
Oui.
Est-ce que tu peux en dire quelques mots ?
Oui, on a toujours tendance à, quand on prend la parole, à affirmer. Et puis une affirmation, 2, 3, 4, 5, et puis on y va, on y va, on y va. Observez la majorité des prises de parole, tu as des personnes qui vont pendant 20 minutes affirmer 50 fois, 60 fois des choses. Plus je rentre dans de l'affirmation, plus je deviens chiant.
Absolument. Donc il faut questionner, même ce qu'on sait déjà.
Absolument. Donc l'idée c'est quoi ? Grâce aux questions, la question, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle connecte, elle reconnecte l'interlocuteur avec son public. Elle donne du relief, parce qu'à la fin d'une question, il y a un point d'interrogation. On a tous appris à l'école qu'après un point d'interrogation, il y a un point, et après un point, on respire une seconde. Donc, ça donne du relief, ça donne de la vie. Je pose des questions qui ne nécessitent pas de la réponse. Voilà. Si je te fais une présentation commerciale dans laquelle j'ai un certain nombre d'engagements, je vais voir quels sont les délais sur lesquels nous allons nous engager et quelles sont les ressources que nous allons mettre en place pour garantir le service attendu. Donc, quelque part, la technique, c'est quoi ? C'est que si je prenais une présentation standard que je veux transformer en pitch, à chaque fois qu'il y a un chapitre, un sous-chapitre, un nouveau point, ben je mets une question. Ça donne de la vie du relief.
Ah, c'est bien. On comprend que les questions sont super importantes, mais est-ce que ces questions, tu l'as dit, elles n'attendent pas forcément une réponse ? Parce que c'est vrai que quand on est face à une assemblée, si on pose une question et qu'on se prend un bide, ça fait... Là, le bide, on l'entend.
Oh, on est bien d'accord. Il faut être, entre guillemets, prudent avec les questions. Mais c'est comme tout, tu prends la parole devant 40-50 personnes, la posture que tu vas avoir, le regard que tu vas avoir va, de manière très claire, montrer si tu attends ou pas une réponse. Si à un moment donné, tu veux jouer avec le public, pose plutôt des questions fermées. Parce que le but, c'est pas de donner la parole au public et de perdre le drive, comme on dit, du pitch, et que de lancer un débat alors que tu es en train de prendre la parole.
Donc ça s'entraîne. Fermée, ça peut être une question oui-non, une question de chiffres.
Exactement, c'est exactement ça.
Alors, on en arrive tout de suite au troisième point, parce que voilà, on parle du public. C'est important de connaître son public quand on pitch, ou est-ce qu'il vaut mieux pitcher à l'aveugle en ayant, j'allais dire, sa préparation bien faite qu'on peut décliner un peu partout ?
Alors, pitcher à l'aveugle, pourquoi pas ? Et j'espère que tu seras d'accord avec moi, César. Si je parle devant des commerciaux, des retraités, des adolescents, des fonctionnaires, je ne sais quoi, ils n'ont pas tous les mêmes attentes. Et parfois, ils sont tous là en même temps. Donc, dans la mesure du possible, si je sais devant qui je prends la parole, je vais pouvoir adapter mon discours, appuyer sur certains points, embarquer davantage. Si je parle devant des banquiers ou des étudiants en art plastique, les intérêts ne sont pas les mêmes.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on pense toujours un peu à ce qu'on appelle le son casse. Le son casse, c'est identifier les motivations d'achat. Qu'est-ce que la personne ou le groupe de personnes qui est devant moi va acheter ? Quand je dis acheter, ce n'est pas forcément des clients. En interne, si demain, je vais voir mon patron pour lui demander une augmentation, pourquoi il va me l'accorder ? Qu'est-ce qu'il peut me donner, lui donner envie de l'accorder ? Si je parle devant des clients, etc. Donc voilà, c'est se dire devant qui je parle.
Pour identifier les leviers derrière.
Exactement. Devant qui je parle et qu'est-ce qui pourrait les intéresser, qu'est-ce qui pourrait leur donner envie d'acheter mon idée, mon produit ou mon service.
J'avais vu dans une formation que tu animais qu'il y avait 3 personnes derrière la personne à qui on parlait.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais, tout à fait. En fait, et 3, c'est un minimum. Une fois, ça nous est arrivé de dire, tiens, cette personne devant qui on va parler, elle représente 6-7 personas. C'est le principe des personas. Regarde César, je parle devant toi aujourd'hui. Tu es César le jeune homme, tu es César le représentant de la société Natif,
ouais.
Et tu es César le podcasteur. Et on peut aller plus loin, tu es peut-être président d'un club de foot, tu es peut-être engagé dans une ONG, etc. Si je prends la parole devant toi, le fait de savoir à qui je parle, ou de me permettre de choisir à qui je parle, va faire que je vais peut-être pas employer les mêmes mots, attaquer la même manière, etc. Donc, il faut au moins se poser la question.
Comment on se renseigne sur une audience au sens large, où j'ai envie de dire, il peut y avoir des gens qui ont 1000 vies?
Alors,
c'est complexe.
Le but, c'est pas se complexifier les choses.
Ouais.
C'est sûr que quand tu prends la parole, ça m'est arrivé devant 2000 personnes. Je savais à peu près qui était là, mais à un moment ou à un autre, tu peux pas parler à 2000 personnes différentes qui peuvent représenter 150, 200 personnes à différentes. Donc à un moment, tu l'intègres et puis tu dis comment je fais. En revanche, sur une plus petite assemblée, interne ou externe à une entreprise, quand j'ai 4-5 personnes, ça peut être intéressant de me dire, tiens, j'ai qui devant moi? Et à quel moment j'ai envie de parler à telle ou telle personne et appuyer dessus? La question que tu posais, c'est comment je peux me renseigner? Bah, il y a à la fois ce que tu peux connaître d'eux dans la relation que tu as avec eux, puis à un moment ou à un autre, il y a des plateformes, il y a des outils qui te permettent de te renseigner. Il y a les discours corporate, les sites web et autres, et puis à un moment ou à un autre, on peut chercher les actus diverses variées, puis ça te permet de te dire à qui je parle.
Si voilà, je fais un discours devant telle entreprise, je ne m'adresse pas seulement à telle entreprise, je m'adresse aussi peut-être à des pères de famille, peut-être... À des gens qui
absolument.
Il faut être capable de parler aux différentes vies de chacun pour les embarquer complètement.
Et parler aux émotions. Derrière chaque individu, même s'il y a des costumes et des postures, etc., effectivement, je parle à des personnes qui sont derrière un professionnel. Ce sont des hommes et des femmes avec des parcours, des expériences différentes, des valeurs et aussi un petit cœur qui bat.
Un petit cœur qui bat, ça nous amène directement sur notre chapitre 2 qui sera consacré au storytelling. On se retrouve tout de suite.